France Inter, franceinter.com.
Oui, bonjour. Toute cette histoire, en fait, autour de la burqa, cet acharnement politique et médiatique contre ces pauvres femmes, est au fond une manipulation des firmes pharmaceutiques qui ont bien compris que la burqa représentait un moyen de protection sans faille contre le virus H1N1.
Quel foin, dites-moi, sur cette histoire de burqa. Je ne sais pas s'il y a 300 burqas en France ou 10 000. En tous les cas, ce que j'ai compris avec vos émissions, c'est que ça lui rapporte vachement hein, ça, au père Sarko. Là. Moi, je serais lui, je mettrais carrément les membres du gouvernement dans la rue, parce que c'est super efficace en matière de division sociale. C'est vraiment, c'est de masquage de la réalité sociale, c'est quand même super efficace.
C'est Denis, au fin fond de la campagne des Plous, qui comprennent rien. Vous vous rendez compte de dire que sous couvert de défendre la condition féminine, on crée des racistes. Mais c'est n'importe quoi, votre connerie de débat. Je suis né dans une ZUP et j'ai grandi pendant 18 ans et j'ai jamais vu, il y avait des Turcs, des Arabes et tout, et j'ai jamais vu un foulard, j'ai jamais vu même un signe. Ma mère, elle bossait au MRAP et tout, elle faisait de l'alphabétisation, la religion, les gens, ils te la montraient pas dans la gueule comme ça, et ils se mettaient, même les musulmans, les chrétiens et tout. C'est quoi ce délire? Je suis effaré par le discours que vous tenez, quoi. Ah ouais, je suis abasourdi par votre connerie, mais... Putain, mais vous allez trop bouffer à la cantine avec Philippe Val, hein, c'est pas possible. Arrêtez de bouffer ensemble, c'est n'importe quoi. N'importe quoi.
Salut Daniel, salut à tous. Donc là, j'entends les réactions par rapport à l'émission d'hier là, sur la burqa, avec lesquelles je suis assez d'accord. Les réactions, hein, pas avec toi, parce que j'entends, tu dis, poindre un certain racisme derrière les réactions. Mais là, je pense que t'exagères un peu, quoi. Je suis en général assez d'accord avec toi, mais là, la provocation va un peu loin. Parce que le fait que les gens s'insurgent de voir des femmes sous un voile noir comme des bâches, quoi, en fait, là, il n'y a pas de racisme derrière ça. Quand on s'insurge contre ça, c'est pas du racisme. Quoi. C'est juste une réaction de bon sens.
Salut Daniel. Encore une petite chose sur la burqa. Je pense que la burqa nous crache à la gueule... l'histoire des peuples apatrides et humiliés, et l'histoire des populations immigrées d'Afrique du Nord, l'histoire des peuples vaincus. Alors, je ne comprends pas pourquoi on s'étonne du miroir radical qui nous pendent. En fait, la burqa symbolise aussi l'incapacité de notre société bourgeoise, ignorante et manipulée à envisager l'autre.
J'écoutais hier soir l'émission hier après-midi de travailleurs exploités dans le sud de l'Italie, et je voulais rebondir sur une remarque de Daniel Mermet à la fin de de l'émission, qui parlait de cet atavisme mémoriel sur les Sarrasins et les Africains du Nord qui restaient en Sicile en particulier. Je suis d'origine sicilienne et je me rappelle ma grand-mère, quand j'allais la voir, qui elle-même me racontait des histoires de sa propre grand-mère qui lui disait, pour lui faire peur, « Attention, attention, les Sarrasins vont arriver, ils vont venir te prendre, etc. etc. » Et je pensais à ça hier soir quand j'écoutais l'émission. Donc je confirme un peu ce que disait Daniel à une remarque près, c'est qu'il faut savoir pourquoi les Siciliens et les Italiens du Sud avaient peur des Sarrasins. C'est qu'ils venaient pour... tout simplement, et ça c'est l'histoire, je me suis renseigné plus tard, pour les kidnapper, pour en faire des esclaves. Ils les kidnappaient, les plus riches, bien sûr, ils demandaient une rançon, et sinon, les plus pauvres, ben, ils repartaient en Afrique, et donc les Sarrasins, les Africains du Nord avaient comme esclaves des bons Européens. Et voilà, je crois que, bon, ben, ça c'est pas du politiquement correct, bien sûr, mais je pense qu'il faut le savoir, et donc cette peur est peut-être restée justement dans les entrailles des Siciliens et des Italiens du Sud. Voilà, ça remet aussi en cause peut-être certains dires de nos politiciens comme Madame Taubira qui parlait donc du méchant blanc et du gentil noir. Voilà, l'histoire est beaucoup plus compliquée que tout ce qu'on peut penser. Merci, au revoir.
Merci, merci pour ces observations. Effectivement, on ne parle pas beaucoup de l'esclavage arabe. Il y a eu un considérable esclavage pratiqué dans les pays du Golfe au cours des siècles. Et c'est vrai que c'est une chose dont on parle moins. Alors je ne sais pas si cet auditeur a raison, mais en tous les cas, ça mérite d'être creusé, cette observation qu'il fait, d'autant qu'aujourd'hui, eh bien, on va à Lampedusa, cette petite île plus proche de l'Afrique que de l'Italie, bien qu'elle soit italienne, au sud de la Sicile, avec ce très beau nom de Lampedusa, qui rappelle évidemment Tomasi di Lampedusa, l'auteur du Guépard, mais qui est un endroit évidemment à la fois convoité, qui est un rêve pour un Eldorado, pour des milliers, des dizaines de milliers de migrants venus d'Afrique et qui est en train de se transformer en enfer ces temps-ci, à la fois pour les migrants et pour les habitants de Lampedusa. On va voir comment. Et puis on retournera, si le temps nous le permet, à Saint-Nicolas de Basco, retrouver nos travailleurs marocains dans cet épouvantable bidonville où ils végètent depuis des années, eux qui travaillent dans les maraîchages alentours, fabriquant les tomates et les fenouilles dont nous nous régalons sur nos marchés. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous les AMG et message à ceux du Puy-de-Dôme. Les réunions du repère de Courpierre, c'est toujours le deuxième vendredi du mois à 18h30, et donc aujourd'hui au bar Pizzeria chez Zico, rue de la Gare à Courpierre. C'est en face de la quincaillerie Borel, vous ne pouvez pas vous tromper. Vu la date, on aurait pu parler des dangereux terroristes qui envoient des lettres anonymes, eh ben non. Ce sera plutôt une discussion autour des AMAP avec Émilie Morata. Les AMAP, c'est des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. J'aime bien aussi AMAP avec deux M, c'est les associations pour la mise en minorité de l'agriculture productiviste. Allez, à ce soir, salut!
Eh bien, bonjour à toute l'équipe de Daniel Mermet et puis aux auditeurs. Pour information, un grand rendez-vous cet après-midi, vendredi 11 septembre, à partir de 18h sur la dalle d'Argenteuil, concernant l'ensemble des violences policières. Alors évidemment, c'est complètement d'actualité quand on entend les propos d'un certain Hortefeu et quand on voit tout en bas de la chaîne de la répression des policiers qui ont, comme à Argenteuil, le 9 juin, eh bien, frappé, battu à mort un monsieur dénommé Ali Ziri, âgé de 69 ans, et qui est décédé suite au coup reçu, et il est mort par ailleurs aussi d'une anoxie, c'est-à-dire absence d'oxygène. On a comprimé ses poumons, une technique qu'on connaît bien, qui ressemble fortement à ce qu'on appelle la clé d'étranglement, qui a été condamnée par la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple. Eh bien, vont témoigner sur la dalle d'Argenteuil un ensemble de victimes, qu'ils viennent de Grigny, de Bagnolet, de Neuilly-sur-Marne, de Montreuil, tous ceux qui ont perdu un œil ou l'audition suite à des tirs de flashball, par exemple. Eh bien, c'est à ce rendez-vous-là où on donnera la parole à ces victimes, à leurs familles, à leurs avocats, aux associations, que nous vous convions cet après-midi pour dire tout simplement qu'on ne se laissera pas faire, que nous ne laisserons plus faire et qu'il est temps de mettre en place à l'échelle de ce pays un réseau contre les violences policières et puis mettre fin à l'impunité de ces policiers-là.
Allô, Daniel ? C'est Robert. Je ne sais pas si tu me remets. Tu sais, Robert, de l'Association des Amis du Terrorisme de Gradignan, en Gironde. Je t'avais appelé l'année dernière pour la fête du 11 septembre, tu te souviens ? Eh bien, on est à nouveau le 11 septembre, mais c'est pour une autre raison que je t'appelle. Figure-toi qu'à l'automne dernier, je suis allé faire un stage de formation en Iran. Ça fait partie du cursus, si tu veux, pour obtenir le CAAT, le certificat d'aptitude à l'action terroriste. Et alors là-bas, je suis tombé amoureux d'une Iranienne. Elle est rentrée en France avec moi, et on s'est installé à Gradignan, dans un petit pavillon. Et alors tu vas rire, parce qu'on lui a donné un nom à ce pavillon. Tu sais, ça se fait de mettre des noms sur les maisons, genre « ça me suffit », ou avec des notes sur une portée musicale, « domicile adoré ». Eh bien, nous, notre pavillon, on l'a appelé la burqa. Parce qu'on s'est dit, les gens, ils sont contre la burqa, n'empêche que dès qu'ils ont trois ronds, ils s'achètent une maison qui s'empresse de cacher derrière des haies de laurier ou de fusain ou de brande, quand c'est pas carrément des murs avec des hauts portails, à quoi ils ajoutent un système d'alarme, etc. Alors nous, on n'a pas de mur, pas d'alarme, mais pour rigoler, on a appelé la maison la burqa. Par contre, ma femme, elle la porte pas. Mais alors, je t'appelle précisément pour te dire que ce matin, ma femme a donné naissance à des jumelles. Deux jolies petites filles que, puisqu'on vit en France, on va les élever à la française. D'ailleurs, on leur a donné des prénoms français. Hein. Les deux petites, elles s'appellent Amandine et Jade. Et alors j'ai pensé que pour te remercier et remercier France Inter d'avoir passé mon message l'année dernière, tu pourrais être le parrain de l'une et le directeur de France Inter, M. Val, parrain de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses ?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base si j'y suis, avec Francesco Giorgini, Mama li Turchi. Voilà, c'est un concert matinal, Mama li Turchi, bande. Maman les Turcs arrivent.
Et Mama li Turchi, c'est un cri d'alarme quand les Sarrasins arrivaient sur les côtes italiennes pour les piller. Le cri, c'était Mama li Turchi, Mama li Turchi.
Oui, maintenant, c'est Mama li Arabi. Mama li Romi. Aujourd'hui, c'est la fête ici au village, au port de Lampedusa. C'est la fête de la Vierge. Et voilà, c'est ce petit orchestre forain qui passe avec un petit triporteur devant. Et derrière, à l'arrière du triporteur, il y a un gars avec un... Il y a une sono avec un gars et son piano. Et puis deux autres, une trompette et un saxo et une basse. Et voilà. Et là, ils jouent très tôt le matin, les gars. Hein. Ils traversent le village à 7h du matin, ils réveillent tout le monde. Mais ils sont suivis par un cortège de scooters et des gens du coin. On voit tout de suite que c'est des gens du coin, des pêcheurs, tout contents de suivre leur musique. Là, ils sont devant nous et ils vont vers le port. Ah, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a vraiment... Tout le village, hein, c'est les autochtones, c'est les gens âgés qui sont tous contents d'être là. Hein,
les gamins.
Les gamins, les chiens, le soleil. Il est quoi, il est 9h du matin. Mais derrière tout ça, là, en bas, il y a le môle.
Il y a juste le môle d'arrivée
des clandestins. Et là, il y a des journées à... 1000, 2000 clandestins qui peuvent arriver dans la journée. Mais ça, tout le monde tourne le dos, c'est une autre histoire. Alors, c'est très joli parce que la petite charrette s'en va, le petit triporteur avec la remorque. Évidemment, les mômes s'accrochent derrière. Il y en a un qui est assis sur la remorque, il y en a un qui est en vélo et l'autre avec sa patinette. Charmant, magnifique, cette scène du matin à Lampedusa, cette petite île, minuscule île de quelques à 160 km des côtes tunisiennes et 350 km des côtes libyennes, donc plus proche de l'Afrique que de la Sicile. Et Lampedusa, vous le savez bien, est devenue la porte la plus accessible aux clandestins désireux d'entrer en France. À quoi ça ressemble, Lampedusa ? Ben, à un caillou. Un caillou sympathique, plein de gens sympathiques, mais à un caillou qui a une histoire assez dure. sans terre, sans eau, Lampedusa a connu beaucoup d'épreuves. Elle a été une colonie pénitentiaire en 1872, une base militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, bombardée à la libération. Et, eh bien, Lampedusa, si c'est là, c'est l'Eldorado pour tous ces migrants, c'est aussi un problème pour les habitants de Lampedusa que d'y vivre. Parce que si la saison touristique n'est pas bonne, étant donné le climat d'hiver, la sécheresse, etc., ben si la saison touristique n'est pas bonne, il faut remonter sur la Sicile ou aller en Italie, migrer également. Alors les habitants de Lampedusa connaissent bien le phénomène de la migration. Et on va voir que les choses ont changé. Le reportage qu'on a fait, c'était l'an passé. Et depuis l'an passé, eh bien, les choses ont changé. Le centre d'accueil, d'identification des clandestins est devenu centre d'expulsion, alors qu'il était un centre d'accueil. Et les habitants ont protesté contre cela parce qu'ils ne voulaient pas que leur île se transforme en un Guantanamo. Et il y a eu des manifestations, vous vous souvenez peut-être, en février dernier, des clandestins qui étaient dans ce centre, qui sont sortis du centre, qui ont manifesté, qui ont tout cassé dans le port de Lampedusa. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les habitants de Lampedusa les ont soutenus parce qu'ils ne veulent pas que leur ville devienne, leur île et leur ville devienne, et leur port deviennent un Guantanamo. C'est une histoire tout à fait passionnante, donc on va essayer de raconter au cours de cette heure. Ah, de là-bas, si j'y suis, à Lampedusa, Mama Liturki.
Tu si va a rivivi. Sunt un vânt adocat pe o tană și cu un stoc în bală, stoc în zi, stoc o mătă. Ștau în păgări la purăgia, zi de veșca în pieța via, nu-mi pot fac eu guabaria, nu-mi care la mă fer, nu-mi pot fi. Un vaie, un viene, o revolvera, ruție, nu-mi aviuză, nu-mi aviuză mie. Un viene, un vaie, tu ți-mi ia dimineața, coaie, nu-mi aviuză, nu-mi aviuză mie. Ca vine sotomul, nu-și para, chiar un rarii dojgur. Chisara, nu-și para, nu-și para. Banto mare pe ciutia, o mabă gădevă băia. Une faie, une viene, o revolver aduce. Nu m-a viuză, m-a viuză, m-a viuză. Tu te ori în tot cafe, tu te n-o tot tabare. Cu vestite gabardina, cu una lore brilantina. Gasti șvana tornate. Chiste zi scoda cu istura, piciu de meta sigura, si de vilea nervatura, chisa domur, poverni cu stufa de lui fi. Un vaie, un viene, o revolvere aduce, nu m-a viuză, nu m-a viuză mi. Un viene, un vaie, tu ti mi-a dimineața, coaie, m-a viuză, m-a viuză mi. Ca mine s-o tomur, nu-și para, chiar o rari de-o școr, chisa, nu-și para, nu-și para. Banta mare, piciu de o mamă, că te vă voia. Ori viene, ori volverà, c'è un maviuso, 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 maviuso.
Là, c'est le cimetière des bateaux. C'est le cimetière des bateaux qui font la traversée de la Libye jusqu'ici. Et parce que les bateaux ne font qu'un tour, ils ne font qu'une traversée, ils ne reviennent pas. Alors les voilà, ils sont devant nous, cassés, en tas, entassés, avec les restes, des restes de vêtements, des bouteilles de plastique, quelques objets, et puis surtout, ce sont des bateaux qui sont fracassés, généralement bleus, peints en bleu, des bateaux en bois souvent. Il y a aussi des gonflables, des sortes de genre de Zodiac, là, au-dessus. Et ça, c'est un dépôt. Mais c'est une des activités de l'île. Voilà, c'est une île très sèche. Très désolé, quand on dit un caillou, c'est vraiment exactement ça. Avec quelques moutons dessus, là, qui approchent entre les herbes desséchées. C'est un grand ciel, très beau, très très beau. Les gens trouvent que c'est un mauvais temps, mais pour nous, c'est un temps vraiment magnifique. Et puis là-bas, au loin, on aperçoit la capitale, le port. Petite île sicilienne de l'archipel des Pélagies. Voilà, Lampedusa, un endroit touristique aussi, mais un endroit donc où arrivent ces réfugiés, ces clandestins. 16 000 transitent annuellement par cette île et arrivent à bord de ces embarcations. On sait, on a régulièrement des reportages, des nouvelles, enfin pour ceux qui s'y intéressent, et qui sont quand même assez nombreux. Des catastrophes et des naufrages et de l'horreur de ces traversées. Et je le disais en commençant, le centre d'accueil est devenu un centre d'identification et d'expulsion, et sous la pression des habitants, il est redevenu un centre d'accueil aujourd'hui comme il l'était il y a un an lorsque nous étions là avec Francesco et Omelia. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est des bateaux qui valent quand même de l'argent. Imagine, pour un pêcheur tunisien, un bateau comme ça, c'est...
Ce bateau-là.
Le bleu, là, le grand bleu, il est magnifique.
Compte 200 personnes dessus, les unes sur les autres.
Ouais.
200 personnes à 1500 euros. Ça te fait 300 000 euros. Un bateau comme ça, ça coûte pas plus de 30 000 euros. Ça te fait 280 000 euros dans la poche. Ceux qui fournissent le bateau, fournissent une boussole. Boussole marine, là, ça coûte dans les 100 euros. Un téléphone satellitaire Touraya, 500 dollars, 500, 600 dollars. Donc les frais avec le bateau, en tout et pour tout, ça peut faire entre 40 000 et 50 000 euros. Et ça rapporte 300 000 euros. Regarde un peu la marge bénéficiaire et tu comprends.
Et là, ils donnent le bateau, ils trouvent un gars qui sait à peu près naviguer, vaguement naviguer.
Ils lui disent, toi, tu peux y aller sans payer.
On te file la boussole, le GPS.
Voilà.
Et le numéro de téléphone des gardes-côtes italiens de Lampedusa. Direct.
Ouais, voilà.
Et dès que tu es à 40, 50 miles de la côte de la Libye, t'appelles, tu lances un SOS.
Andiamo su, che ora, mentre usciamo, poi vediamo.
On peut partir.
Allons-y, allons-y.
Là, on va démarrer, on va partir en mer.
Nous, évidemment, là on est confortablement sur cette vedette, puissante vedette des gardes-côtes de Lampedusa. Mais regarde la côte là. Et imagine maintenant que tu es au terme de 2, 3, 4, 5, 10 jours de traversée. Et que tu aperçois cette terre. Et que tu aperçois cette terre qui est l'Europe, qui est peut-être une chance d'une vie meilleure, quoi.
Déjà, nous on n'est pas loin de cette côte, donc on la voit grande. Mais quand on part de Libye, c'est un tout petit point sur une carte. Ça fait 20 km carrés au milieu des centaines et des centaines de kilomètres carrés, des milliers et milliers de kilomètres carrés de mer.
Et ce qui est évidemment extraordinaire dans cette histoire, c'est la proximité, ça on va le dire et le répéter, tellement c'est extraordinaire, entre cette île qui est un caillou, hein, qui est un caillou sec, Lampedusa, mais qui est devenue une station de tourisme où les gens viennent se bronzer et s'amuser en vacances, et la proximité entre la station touristique et l'arrivée de ces centaines et centaines et centaines de clandestins, des fois dans des états pitoyables. Et on nous raconte qu'il existe des embarcations qu'on appelle orphelins, orphelines, c'est-à-dire qui n'ont pas été récupérées par les gardes-côtes. Donc c'est des embarcations orphelines. Et il est arrivé un soir, il y avait une fête dans le port, là-bas, une grande fête avec feux d'artifice, musique, danse, etc. Et il y a une de ces embarcations orphelines qui est arrivée jusque dans le port. Et là, on imagine ces gens qui viennent du fin fond de l'Éthiopie,
de l'Érythrée,
du Nigeria,
du Mali,
même éventuellement du Sri Lanka, du Pakistan, etc., qui se retrouvent au bout de 2-3 jours de traversée, serrés au point d'avoir des articulations coincées, qui ont vomi, qui ont tripé boyaux, etc., et qui aperçoivent ça. Et on dit qu'ils ont cru que c'était ça vraiment la terre promise. C'est vraiment une terre promise dans laquelle il y a des feux d'artifice, danse, etc. Ils étaient tellement heureux qu'ils se sont mis aussi à taper dans les mains, à danser et à chanter. Autour de nous, le port de Lampedusa, il fait beau, c'est génial, c'est un peu l'arrière-saison, c'est tout doux, il y a des yachts, il y a des bateaux de pêche, c'est un ciel magnifique. Et là, on est à bord de la vedette, la Guardia Costiera, c'est-à-dire des gardes-côtes. Voilà, et ces gardes-côtes, on a compris que c'est ceux qui ont pour fonction, avec cela aussi, la Guardia di Finanza, c'est-à-dire les douanes italiennes, qui ont pour fonction d'intercepter les embarcations de clandestins. Et là, on est avec le commandant.
Vincenzo Colella.
Alors, vous êtes le commandant de cette embarcation.
C'est moi, oui.
La nostra funzione è quella di evitare che unità di extracomunitari raggiungano con i propri mezzi l'isola di Lampedusa e prestare i primi soccorsi.
La nostra funzione è di evitare che des unités de extracomunitaires, c'est-à-dire des migrants extracomunitaires, des bateaux d'extracomunitaires, arrivent jusqu'à Lampedusa avec leurs propres moyens et de prêter les premiers secours quand on les intercepte en mer.
D'où viennent les bateaux exactement, vous le savez?
Per lo più Libia.
Pour la majorité, la grande majorité, ils viennent de Libye.
De Libye.
Est-ce que vous avez un sentiment d'invasion?
Non, des médias.
Non, moi j'ai plutôt l'impression que c'est les médias qui donnent cette impression.
On dit que les pêcheurs du coin retrouvent assez souvent dans leurs filets des cadavres ou des morceaux de cadavres.
Può essere.
Ah, c'est tout à fait possible.
Che sono arrivati qua con
nous, ça nous est arrivé de voir des pêcheurs rentrer avec dans leurs filets des cadavres.
C'est assez extraordinaire, hein. Porte de Lampedusa, porte d'Europa, un monument pour les immigrants
décédés et dispersés en mer.
C'est un monument aux morts en mer. Ça ressemble un peu à un arc de triomphe raplati. Et c'est assez émouvant ce qu'on voit, parce que c'est des symboles, les objets qui rappellent la migration. Il y a des pieds, il y a des pas, il y a des chapeaux. Il y a des téléphones, il y a des mains et une porte. Et là, voilà, on franchit cette porte. Mais il y a du vent aujourd'hui, il y a ce Mistral. C'est du Mistral aussi, ici. On est à Lampedusa, mais ça s'appelle aussi le Mistral.
...3163 migrants clandestins ont disparu en mer depuis 1988 dans le canal de Sicile. Donc, le Roberto Maroni, le ministre de l'Intérieur, le 23 janvier dernier, décide de transformer le centre d'accueil de Lampedusa en centre d'identification et d'expulsion. C'est-à-dire que Lampedusa n'est plus un lieu de passage, d'accueil, pour ces migrants qui ensuite vont vers la Sicile, sont dirigés vers la Sicile ou vers l'Italie. On les garde là, on les parque là et on les renvoie vers la Libye. Pourquoi Roberto Maroni, ministre de l'Intérieur, le hortefeux italien, prend-il cette décision? C'est qu'il fait partie de la Ligue du Nord, d'Umberto Bossi. Et la Ligue du Nord, vous vous souvenez, la Padanie et toutes ces histoires, a fait 10%
aux Européens d'Amérique du Nord, c'est ce parti xénophobe et sécuritaire avec son racisme débonnaire, pour reprendre une expression fameuse, qui a fait 10% aux Européens. Donc voilà, il faut flatter, il faut plaire à cet électorat. Voilà pourquoi il prend cette décision. Or, j'en parlais tout à l'heure, le 18 février, il y a cette révolte qui éclate dans le centre. Et c'est très violent, les heurts font 40 blessés, les immigrés mettent le feu au bâtiment, puis ils prennent la poudre d'escampette et gagnent le village, le port, vitrines brisées, packs de bière emportés, une véritable émeute. Et là, on s'attend à ce que les habitants résistent ou se cachent ou allez savoir. Eh bien non, ils se mettent à hurler « Liberta, liberta, liberté pour !» pour les migrants. Alors on essaye de rétablir l'ordre, on envoie des forces de police, l'armée, etc. Mais la situation est impossible, si bien que, sous la pression et les protestations des habitants de l'île de Lampedusa, le centre est redevenu un centre d'accueil. Sauf que là, on fait tout pour que les clandestins, les migrants, n'arrivent plus à Lampedusa. Ils sont dirigés vers la Sicile ou vers Malte, parce qu'il y a encore un conflit entre Lampedusa et Malte, et si bien que ce centre est à peu près désaffecté. Voilà les hommes et les jeunes hommes qu'on y avait rencontrés l'an passé avec Omeya et Francesco. Bonjour, d'où tu viens ?
Maroc.
Tu viens du Maroc ? T'es parti il y a combien de temps là-bas ?
12 jours.
Tout s'est bien passé ?
Impossible, je peux me le faire.
Il faut dire que ça s'est bien passé.
C'est bien, le bar, le mec,
par exemple, en mer, on a été perdu. Pendant 3 jours, on était perdu. On avait fini les provisions d'eau. On n'avait plus de bouffe. On a été sauvés parce que la garde côtière italienne nous a retrouvés.
Vous êtes resté combien de temps en mer ?
Le premier sincère, ma soeur.
On a passé plus de 3 jours en mer.
Plus de 3 jours en mer ?
Oui.
Et vous étiez combien sur le bateau ?
360.
Combien tu as payé pour la traversée ?
3 millions tunisiens, c'est-à-dire 3 000 dinars dans les 2 000 euros, un peu moins de 2 000.
Que tu as payé au Maroc ?
Oui,
non, en Libye, on l'a payé.
Ah, en Libye, mais du Maroc à la Libye, combien tu as payé ?
500 euros.
500 jusqu'à la Libye et ensuite 2 000 pour le bateau ?
Oui, c'est ça.
Entre le Maroc et la Libye, il n'y a pas besoin de visa. Mais donc c'est payé pour le transport, pour le voyage, c'est pas un passeur.
D'accord, mais dis donc, ça fait beaucoup d'argent, comment tu avais fait pour avoir l'argent ?
Pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais ici, c'est rien. Parce qu'il y a eu toute ma famille qui s'est cotisée, ils ont emprunté de l'argent pour me les donner, etc.
C'est-à-dire que tu es là pour gagner ta vie et pour envoyer de l'argent au village, à la famille.
Oui,
c'est ça
famille.
Que tu vas faire.
La famille.
C'est pour ça que la famille s'est cotisée pour t'envoyer, c'est oui. Pour que tu viennes travailler ici pour leur envoyer de l'argent.
Famille,
oui. Ouais. C'est quoi ta famille ? C'est des paysans ? C'est des gens dans la ville ?
Ils
vivent à la campagne et on a presque rien. On vit très simplement. On est 8 dans la famille. Il y a 7 filles et moi je suis le garçon unique et papa et maman.
Alors t'es prêt à faire quoi ici ? Quel boulot tu es prêt à faire ? N'importe quel boulot
ou...
Absolument n'importe quoi. Si je trouve n'importe quel travail, il est suffisant pour que je gagne un petit peu d'argent pour envoyer à la maison et moi vivre ici. J'espère que c'est un truc licite. Même sans papier, je vais essayer de faire un travail qui soit tranquille. Parce qu'il y a la famille qui m'attend, j'ai pas envie de risquer trop pour pas tomber en taule, etc.
Bonjour. Bonjour.
Vous parlez français ?
Un peu, pas beaucoup.
D'où vous êtes ?
Moi, de Maroc, de centre.
Puis quand vous êtes parti de là-bas ?
J'ai en tout un mois. Ah, bien, le trajet, c'est Maroc, Libye, par le désert. Hein. Il y a des circuits.
C'est très dur, ça, non ?
Mais lorsqu'on est dans une vie un peu mauvaise ou un peu dure, la dure, c'est de ça, c'est moins que la dure de ça.
Ah bon ?
Oui.
Le désert, c'est moins dur que la vie que tu avais au Maroc.
Oui. Moi, j'étais étudiant. Je n'ai pas trouvé ma chance là-bas. Je n'ai pas trouvé d'emploi. Alors, il faut que je cherche ma vie dans une autre place. Ouais. En plus, je suis né en France.
Où ça ?
À Lyon.
Ah oui ?
J'ai rentré à 7 ans. Et je n'ai pas eu mes papiers, je ne sais pas pourquoi. Alors là, je suis là pour aller en France. Et là-bas, il faut que je m'en rende mes papiers. J'en ai marre de la vie là-bas, moi. Je n'ai pas trouvé d'emploi là-bas.
Combien de temps t'as mis pour la traverser dans la mer, en mer ?
30 heures. Ce n'est pas bon. En plus, on n'a rien à manger ni à boire. Ah oui. On a vu la mort. La première, c'est parce que le bateau était très plein. Le maximum, 200. Mais nous, il a 410. Comment on dirait-je ?
Le bateau pouvait remplir 200 et vous
200 le maximum. Ah oui, c'est la première, ça. Nous sommes vivants. La deuxième, c'est à cause de la soif et de la faim. Et le soleil est très chaud, alors là...
Qu'est-ce que tu avais comme vêtement ?
Juste celui que j'ai apporté, un pantalon, un t-shirt, un spadri.
Il ne faut pas perdre sa casquette.
Hein. Oh non. Il va être avec moi jusqu'à la mort. Tous mes vêtements.
Combien tu as payé pour la traversée ?
1700 euros.
1700 euros, t'as payé pour la traversée.
Oui.
Et maintenant, là, t'es content d'être là quand même, non ?
Ah oui, hein. Oui.
Donc, quand tu arrives ici, les gens qui arrivent juste
Je suis né de nouveau. Lorsque on est dans le bateau et je vois le...
Lampedusa ?
Oui, qui en sont venus. Alors là, je me dis, grâce à Dieu, nous sommes vivants de nouveau.
Ferma quando ti dico, ferma quando ti dico due parole. Poi ritornella, ferma quando ti dico due parole. Corri a vita di lui, corri a vita di lui, un sospiro amare. E vidi di se mi rispugna al mio bene. Poi ritornella e vidi di se mi rispugna al mio bene.
Là, on vient d'arriver, c'est assez incroyable hein, ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on aperçoit ? On aperçoit des maisons à l'abandon, des maisons un peu en ruine, des petits immeubles en ruine, un paysage d'un peu de fin du monde, des ordures, le bruit des générateurs. Là. On va essayer de comprendre ce que c'est. Là, on voit un bistrot, un baby-foot avec des gars autour. Et là, il y a Anselmo. Est-ce que tu peux nous présenter l'endroit où tu nous as conduit là ?
Si, questo posto è un mercato ortofrutticolo.
Cet endroit, notamment ce gros bâtiment là, c'était prévu pour être un marché de fruits et légumes.
Costruito negli anni 80.
C'était construit dans les années 80.
Sono stati spesi 36 miliardi di lire.
On a dépensé 18 millions d'euros.
Non ha mai funzionato.
E ça a jamais marché.
È stato invece occupato, è stato scelto come dimora.
Ça a été choisi comme demeure, comme maison.
Dagli immigrati marocchini.
Par des immigrés marocains.
Verso la metà degli anni 90.
Vers la moitié des années 90, à peu près.
Lavoratori che lavoravano in agricoltura.
C'était des travailleurs qui travaillaient dans l'agriculture ici.
Quindi nelle aziende agricole qui vicino.
Dans les entreprises agricoles autour d'ici.
Mais ça appartient à qui tout ça aujourd'hui ?
Ed è della regione Campania.
Ça appartient à la région Campania.
Et donc les travailleurs migrants marocains se sont installés ici à partir des années 90.
Sì.
Oui, tout à fait, oui.
Man mano che cresceva la richiesta di manodopera agricola.
Et plus la demande de main-d'œuvre agricole augmentait.
Cresceva anche la popolazione di questa struttura, perché non c'erano più italiani disposti a lavorare in agricoltura.
Il y avait de plus en plus d'immigrés qui venaient s'installer ici, parce qu'il y avait plus du tout d'italiens qui étaient prêts à travailler dans l'agriculture.
Alors retour à Saint-Nicolas de Varco, où nous étions hier. Pourquoi revenir aujourd'hui? Eh bien, c'est pour faire comprendre ce qui attend ces jeunes qui viennent, par exemple, du Maroc, ou d'ailleurs lorsqu'ils enfin arriveront quelque part pour travailler. Voilà dans quelles conditions ils travailleront, ils risquent de travailler. C'est un endroit comme celui-là, Saint-Nicolas de Varco, il faut dire que c'est un des endroits parmi les pires, c'est vrai. Mais là, on a 600, 700 jeunes hommes qui vit dans un véritable taudis, un véritable bidonville, depuis des années, depuis le milieu des années 90, sans aide, sans soutien d'aucune sorte. Et il faut toute le sens de la solidarité d'Anselmo Botté, avec qui nous sommes, qui est un militant de la CGIL, la CGT italienne, pour pouvoir les rencontrer et leur parler.
Zuhir.
Lui est incentré, lui est arrivé.
Je suis rentré en 2006.
Comment tu es entré?
J'ai fait du Maroc en Libye. Puis de la Libye en Italie. On était 266 dans un bâton de 12 mètres.
Et il y avait quoi? Il y avait des femmes à bord?
Il y avait des femmes, des enfants. Du vieillard.
Tout le monde est arrivé vivant?
Ah si. Malheureusement. Tout le monde est arrivé vivant.
Pourquoi tu dis malheureusement?
Malheureusement. Parce que les gens qui ont été quoi in Italia maintenant, questo è l'enfer. C'est l'enfer. Ce n'est pas une bonne vie. Quoi? Avec tous ces merdes. J'ai passé 3 jours à Lampedusa. 1200 personnes.
On était 1200.
Malgré la capacité de Lampedusa, je crois. Et puis, Caltanissetta.
Après, j'étais dans le centre de rétention de Caltanissetta.
Caltanissetta. J'ai passé 35 jours.
En Sicile?
Ouais, si. Si.
Et après, ils t'ont lâché?
Ah, si.
Démerde-toi.
Ils m'ont donné. Comment c'est dit? L'expulsion. Ils m'ont donné 5 jours. Depuis 5 jours, je dois quitter l'Italie. Alors, j'ai resté ici.
Personne ne quitte, en fait. Personne ne s'en va.
C'est une politique pour moi.
C'est-à-dire?
L'impatrio.
Tu dois les rempatrier.
Les rempatrier.
Et ça coûte cher de les rempatrier.
Non, mais ils veulent que vous restiez ici pour travailler. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Tu veux rentrer au Maroc ou quoi?
C'est les choses... Reste comme ça, je vais rentrer au Maroc. J'ai rien à faire ici. Alors, je suis lauréat. Bac plus 4, plus 5.
Ben, bac plus 5 était si. Là.
Deux brevets techniciens supérieurs. L'un en productique mécanique, l'autre maintenance automobile. Là-bas au Maroc, le Maroc est bon pour nous, mais il n'y a pas de possibilité pour travailler.
Et ta famille, elle a dit quoi quand tu as décidé de partir?
Je suis majeur et vacciné.
Pardon.
Qu'est-ce qu'il va faire? Mes parents n'ont pas le droit pour me dire faire ça ou ne faire ça.
Dis-moi, comment vous faites pour rencontrer des filles ici?
Rien. Tous les Italiens sont matérialistes. Qu'est-ce qu'il va faire une Italienne avec un jeune Marocain comme moi? Clandestin, sans travail, sans document. Qu'est-ce qu'il va faire?
Ouais, mais il y a l'amour quand même.
L'amour. L'amour. Dans les bouquins, si. Dans les bouquins se trouve l'amour.
Vous les racontez.
La dionique dans ce merde. Selon faire la masturbation.
deve andare di nuovo.
J'avais jamais entendu cette musique que maintenant j'entends.
Ma certamente a che fare con il mondo e con il suo movimento.
Mais sûrement elle a à faire avec le monde et son mouvement.
E non m'importa di sapere se viene dal paradiso o dall'inferno.
Je m'en fous de savoir si elle vient du paradis ou de l'enfer. C'est une musique régulière ou cela n'a pas de permis de séjour. Et cette musique que j'entends n'a pas de papier, elle s'en fiche. Parce qu'elle est ange, parce qu'elle est diable, elle traverse les murs sans passeport.
Alors qu'est-ce que vous pouvez là pour eux, les gars de la CGIL? Il faut rappeler ce que c'est que la CGIL. C'est l'équivalent de la CGT italienne.
Un plus grand.
Ils adhèrent à la CGIL ou bien c'est vous qui essayez de les organiser?
Non, l'inscription, oltretutto, per la maggior parte di loro, non è neanche possibile perché.
Per la plupart d'entre eux, comme ils sont irréguliers, c'est impossible de s'inscrire au syndicat.
Però questa fetta di immigrazione.
Però, mais ce morceau d'immigration.
È la più organizzata, diciamo così, tra virgolette, la più sindacalizzata.
È quand même la plus organisée et, entre guillemets, la plus syndicalisée.
Perché sono quelli che riescono a tenere i salari almeno sul limite della decenza, sui 25 euro.
C'è il solo che arriva a avere dei salari che sono certo molto bassi, ma alla limite del decenza, c'est-à-dire 25 euro, 26 euro per 7 ore di lavoro.
Perché da quando sono arrivate le donne dei paesi dell'est, che stanno anche loro lavorando in agricoltura.
Più che le femmes dei paesi dell'est sono arrivate, elle aussi sono embauchées in agricoltura.
Sotto le serre soprattutto.
Notamment dans les serres.
Si offrono anche a 18-20 euro.
E il lavoro, même a 18-20 euro per 7 ore di lavoro.
En dessous.
Ancora sotto.
De quel paese?
Romania,
Bulgaria, Ucraina. Ucraina.
Il problema è che l'Unione Europea non era un problema che vuole ici per lavorare meno con i marocchini. Questo che l'ha fatto.
Il problema è che hanno il droit perché sono dall'Unione Europea, quindi non hanno delle questioni di permis de séjour, ma accettano dei salari più bassi che i marocchini.
Comunque sulle donne c'è una cosa
a proposito delle femmes, je voudrais dire quelque chose.
C'è una cosa simpatica che sta succedendo,
che un truc un peu drôle qui est en train d'arriver,
perché c'è questa concorrenza sul lavoro.
Il y a donc cette concurrence sur le travail.
Però si stanno creando molte coppie.
Mais petit à petit, il y a de plus en plus de couples mixtes qui se créent.
Marocchini e ucraini.
Altro marocchino.
Anche qui in questo campo. In questo campo per la prima volta ho visto due donne.
E per la prima volta dans ce camp dernièrement, j'ai vu deux femmes.
Due settimane fa.
Il y a deux semaines, j'ai vu deux femmes ici.
A nascere queste coppie.
E donc on assiste.
Ma ci sono state anche dei matrimoni.
Già, on assiste a ce truc incroyable de couple mixte marocain, bulgare, marocain.
Poi sarà un po' un problema quando dovranno allevare i figli, perché tra un musulmano e
après on verra bien comment vont s'en sortir quand ils auront des enfants.
Dans ce bidonville, vraiment, vraiment désolé, désespéré et tout, déjà on essaye de vivre quand même. Il y a un truc formidable, c'est qu'il y a une affiche géante pour la maison de Marie-Claire, pour le magazine qui s'appelle La Maison de Marie-Claire. Le mensuel de la maison la plus chic. Alors on ne perd pas toujours quand même tout à fait après des années et des années de travail. Anselmo Botté de la CGIL a fini par obtenir que soit signée une convention avec la région et le département pour une intervention humanitaire sur ce camp de Saint-Nicolas-de-Barco pour améliorer les conditions hygiéniques. Voilà. Alors le premier signe concret de cet accord consiste en livraison de box de douche qui ont été installées au miracle au début de l'été 2009, mais qui ne fonctionnent toujours pas. Alors on a parlé de ces couples mixtes, marocains avec une fille bulgare ou avec une ukrainienne ou avec une roumaine, marocain et roumaine. L'histoire de Nicoletta et d'Atal. Atal, il s'appelle ce garçon. Une love story, le destin de Nicoletta. Quand est-ce que, Nicoletta, quand est-ce que tu es arrivée ici en Italie?
5 anni.
Il y a 5 ans.
Et pourquoi tu es venue ici?
Per venire a lavorare, perché a Romania non si può vivere senza soldi. Poi,
per venire a lavorare in Italia, perché a Romania non c'è di lavoro e c'è troppo di su.
Poi i soldi da qua si può vivere meglio, pure là, pure qua.
E sì, un po' guadagnare di su e le invoi a Romania per sostenere un po' la famiglia aussi.
Ho venuto qua da mio fratello e ho conosciuto Atal.
Je suis venu ici parce qu'il y avait déjà mon frère qui était ici et après j'ai connu Atal.
E mi voglio sposare con lui.
E je veux me marier maintenant. E je l'aime beaucoup,
sì,
maintenant.
Sì. Love story.
Sì.
Tout à fait, une histoire d'amour.
Atal mi ha trovato pure lavoro.
C'est Atal qui m'a trouvé un travail.
Agricola.
Travail agricole.
E ho lavorato così perché non mi hanno messo a posto nessuno. Poi.
Et personne m'a fait un permis de séjour, personne m'a fait un contrat, donc j'ai travaillé au noir.
Poi 2 anni fa abbiamo entrato noi romaniani in Unione Europea.
E enfin, il y a 2 ans, la Romania è rentrata nell'Unione Europea.
E mi hanno dato la possibilità di fare i documenti. Adesso sto a posto con il lavoro e con tutto.
E donc après j'ai eu finalement des papiers parce que j'étais un citoyen européen. Et donc maintenant je suis avec un contrat, avec des papiers, je suis rangé.
C'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais?
Di tutto, raccogli fragola,
togli
la plastica.
Sulle serre.
Il y a beaucoup de femmes qui font ça?
Ci sono, molte donne italiane, romaine, ukraine, tutti.
Beaucoup de femmes italiennes aussi, mais surtout ukraine, roumaine.
Sì, però a noi stranieri sempre hanno trattato sempre malamente, sempre.
Mais nous les étrangers, on a été toujours maltraités, beaucoup plus maltraités que les italiens.
Sì, perché aspettavano sempre che facciamo schiave, poi pagavo di più poco a noi che a loro.
E ils nous traitaient tout le temps comme des esclaves et ils nous payaient toujours moins que les Italiens.
Ce l'ho 25 euro e loro 28 euro.
Au jour d'aujourd'hui, moi je gagne 25 euros par jour de travail, eux ils gagnent 28 euros par jour de travail.
Qui 28?
Sì, italiani.
Les Italiens gagnent 28 euros par jour de travail alors que moi je gagne 25 euros par jour de travail. 7 heures.
Tutti i giorni, inclusive sabato e domenica, sempre.
Tous les jours, y compris samedi dimanche.
Ah, t'es obligé de venir le samedi et le dimanche?
Si lavora sempre, sempre si lavora. Non ci stanno le giorni di festa, lavoro sempre.
Il n'y a pas de jour de férié, c'est tous les jours.
Pausa pranzo alle 10.
Il y a un pause de 10 minutes à 10 heures.
Tu travailles dans les fraises et dans quoi d'autre?
Melanzane,
des aubergines,
insalata,
salade,
zucchini, i gaulera,
courgette,
e i meloni rossi, gialli,
melon rouge, melon jaune,
e fagioli,
e haricot.
E ça va où ces légumes là? Tu sais où ils vont ces légumes?
Soltanto che lo so che li portano a magazzini loro a Pontecagnano, dove sta il magazzino grande, e poi da là li preparano e li.
Ils sont emmagasinés à Pontecagnano, pas loin d'ici. Il y a des grands hangars. Des traitements et après peut-être qu'ils partent partout dans l'Europe.
Tu parles de traitement justement, est-ce qu'on met beaucoup de produits de traitement, de pesticides?
Si, trop. Ci sta che mette sopra tutta l'agricoltura, il veleno.
Il y en a beaucoup de produits chimiques et notamment beaucoup de poisons pour nous.
Fanno lavorare così, non danno la maschera.
Ils nous donnent pas de masque, ils nous donnent pas de gants.
Non trattano bene, ti trattano, vai lavoro, se non ti conviene vai a casa, senza scuse, senza niente.
Ils te traitent très mal et ils te disent si tu n'es pas contente, t'as qu'à partir.
Il y a d'autres Roumains qui sont plutôt maltraités ici en Italie, c'est les Roms.
Sì, sì, questo è vero, sì, ça, ma se mantengono i romi da qua fanno bene, perché pure se sono rumeni, io dico la verità, non sono buoni, approfittano troppo, poi sono sporchi, sono cose incredibili.
Ma moi, je dois dire che si les renvoie d'Italie, je suis pas trop contre, j'aime pas trop les Roms. Ils sont sales, ils sont souvent délinquants.
In Italia si dice zinger.
In italiano on dit zigan.
Eh oui. C'est la chute. C'est la chute, c'est désespérant. Mais c'est comme ça, on est tombé de notre petit nuage. Et ben, y a du boulot et on n'a pas le cul sorti des ronces. Merci à tous. C'était un reportage avec Francesco Giorgini. Merci à Omeya, Cédic, Anselmo Botté, Zawir et Nicoletta, ainsi qu'à Antonio Palladino, Laura Rizzello, Vincenzo Collella et Martina Avanza. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et faire des commentaires. Et vous pouvez la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, là aussi, commentaires attendus. À la technique aujourd'hui, Michel Thomas et Pascal Baldassari, c'est Koyen Nguyen et Raphaël Moutère qui ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.